Et donc, bonjour à chacune et à chacun, aux personnes à qui je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour. Nous sommes très contents de revenir et d'être là parmi vous. On a passé une semaine dans le sud, où on était dans une colonie de vacances. Dan Manuel et Cara étaient, ils ont fait la colonie grâce à servir à la lingerie pendant la semaine. Et moi, j'étais animateur et enseignant. Et donc, on a passé un super moment, mais on est content d'être là et d'être avec vous. Et je vous propose de prendre vos Bibles dans le psaume 2. Et on va poursuivre la série d'été qui a été commencée dimanche dernier. Le psaume 2. On va lire. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Avez-vous remarqué comment c'était ce psaume fini? Heureux, exactement comme le psaume 1 a commencé dimanche dernier. Et donc, selon beaucoup de théologiens, il semble que le psaume 1 et le psaume 2 soient en réalité les deux faces d'une pièce. J'ai appelé la prédication « Ni Dieu, ni Maître ». Peut-être une expression que vous avez déjà entendue. C'est en 1880 que Auguste Blanqui a titré un journal, c'est-à-dire que les gens se sont réveillés le matin et il y avait cette expression en premier plan d'un journal, « Ni Dieu, ni Maître ». C'est devenu une sorte de cri de ralliement des personnes qui refusent toute autorité. Autorité politique, autorité religieuse, toute hiérarchie, les gens disent « On ne veut ni Dieu, ni Maître ». Et c'est sûrement une formule que vous avez déjà vue. Et qui a déjà entendu cette formule-là? Ok. Super. Mais en tout cas pour les autres, c'est une formule qu'on voit souvent, qu'on entend souvent dans les slogans, dans les chansons, dans les slogans politiques. Des gens se tatouent même souvent cela pour dire à quel point c'est fort. Ni Dieu, ni maître. Et à première vue, l'idée semble belle, j'ai envie de dire. Elle sonne comme une déclaration de liberté. Personne ne va me dominer. Personne ne décidera pour moi. Je suis libre. Et je m'appartiens puisque je n'ai ni Dieu, ni maître. Alors, même si on va critiquer et qu'on va voir les limites de cette expression, il faut quand même remarquer et reconnaître que cette phrase séduit souvent beaucoup à cause des souffrances vécues sous l'autorité injuste. Je veux dire, une personne qui a vécu avec des parents violents va peut-être aspirer à n'avoir ni Dieu ni maître. Des gens qui ont des patrons humiliants, des dirigeants corrompus, parfois même des responsables religieux qui sont manipulateurs, peuvent dire « Désormais, je ne veux ni Dieu ni maître. » Quand on lit le texte, je ne sais pas si c'était clair pour vous. Alors, il y a plusieurs... Il y a plusieurs voix dans le texte, plusieurs personnes différentes qui parlent dans le texte. Mais la problématique du texte est plutôt claire. le plus grand problème de l'humanité. En tout cas, selon ce texte-ci, ce n'est pas que les hommes cherchent trop la liberté. Le problème, c'est que les hommes cherchent la liberté en refusant le roi qui peut vraiment donner la liberté. On va voir plus tard que celui qui donne cette liberté-là, c'est Jésus. Et Jésus dit dans Jean, Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité. » Et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. Et donc, c'est en Jésus, finalement, que la liberté se trouve. Trois points pour voir ce texte-ci. Le premier, c'est la révolte sur la terre. On va voir ça dans les versets 1 à 3. Le second, c'est le trône dans le ciel. Dans les versets 4 à 9, quand on voit que Dieu a déjà installé son roi. Et le dernier point, c'est le refuge dans le Fils. Je n'ai pas hésité à faire un clin d'œil au nom de notre Église. Ça sera dans les versets 10 à 12. Alors, regardons le premier point, dans les versets 1 à 3. Et j'ai affiché le texte, comme ça on peut le garder en tête. Et donc, le psaume commence avec une question. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? C'est une question... qui expose un peu l'absurdité de la révolte humaine. Vous voyez, j'ai appelé ça la révolte sur la terre. Il y a dans cette question une absurdité de la révolte humaine. Pourquoi les nations s'agitent-elles comme si elles peuvent gagner contre Dieu? Pourquoi? À quel moment l'homme pense pouvoir arracher le trône d'entre les mains de Dieu? Et le mot ici là qui est traduit par tumulte évoque une sorte d'agitation. Je ne sais pas si vous aviez vous allez à la mer et au moment où les vagues sont très 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 agitées, elles grondent. On a l'impression qu'elles grondent et elles frappent sur les rochers. Et il y a une vraie agitation. Ou alors dans les manifestations qu'on peut souvent voir, des gens qui crient, qui parlent fort, qui expriment un vrai mécontentement. C'est ça l'idée du tumulte ici. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? En gros, pourquoi cette agitation. Le tumulte dans notre texte est principalement spirituel. Ce n'est pas un tumulte bruyant et violent. C'est plutôt un tumulte spirituel. Regardez le verset 2. Les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son ouin. Vous voyez? Ce qui est impressionnant ici, je ne sais pas si vous remarquez, c'est l'unité du monde dans la rébellion. Je veux dire que normalement, ce qu'on sait, c'est que les États ne sont pas amis. Au contraire, d'ailleurs, les États se déchirent. Les guerres qu'on voit... les tensions qu'on entend, les conseils diplomatiques qu'il y a. Pourquoi il y a tout ça? Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'entente entre les États. Mais ce qu'on peut voir, c'est que pour se liguer, pour rejeter Dieu, c'est le moment où les États se mettent ensemble. Le refus du règne de Dieu. On voit que les princes et les rois se liguent contre l'Éternel et contre son roi. C'est exactement ce qu'on peut voir dans le Nouveau Testament, enfin dans le Nouveau Testament aussi, dans les Évangiles. On voit que Hérode, Pilate, les chefs religieux et la foule, ces quatre entités-là n'avaient pas d'intérêt commun. Chacun voulait des choses différentes. Mais au moment où il fallait crucifier Jésus, ils se sont mis d'accord. Vous voyez, ils ont réussi à se mettre d'accord. Pourquoi? Uniquement au moment où il fallait tuer le roi de Dieu, tuer le fils de Dieu. On voit ça, si vous avez les Bibles, vous pourrez lire dans Actes 4, dans les versets 25 à 28. En crucifiant Jésus, l'humanité dit à Dieu, nous ne voulons pas de ton roi. Mais alors, pourquoi les hommes rejettent-ils le règne de Dieu? Je veux dire, pourquoi les gens ne veulent pas que Dieu règne? Regardez verset 3. On va voir le slogan, le projet politique de la révolte. Ils disent quoi? Ils disent « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ». Vous voyez ce que ça implique? Les hommes regardent le règne de Dieu, la loi de Dieu, comme étant des chaînes, comme étant une sorte de prison. Ils appellent le règne de Dieu la prison. Et ils disent, il faut se libérer de ça. Nous ne voulons ni Dieu, ni maître. Et c'est exactement le mensonge du serpent dans le jardin d'Éden. Dieu avait donné à Adam et à Ève un monde magnifique, une liberté immense, une relation vivante avec lui, mais aussi une limite. Vous vous souvenez, Genèse 2, verset 17, « Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. » Donc, il y avait une limite que Dieu avait donnée. Et le serpent arrive, lorsqu'il arrive vers Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur dit? Cette limite que Dieu vous donne, c'est la preuve qu'il ne vous aime pas. Il veut vous brider. C'est de l'oppression. Il vous a mis des chaînes. Dieu vous empêche d'être vous-même. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Briser les liens. Vous voyez? Révoltez-vous. Décidez de vivre sans Dieu et sans maître. Prenez votre autonomie. Et c'est exactement ce qui se répète depuis Genèse 3. L'humanité répète la même chose. Le péché, frères et sœurs, ce n'est pas seulement quand on fait une mauvaise action. Le péché, en réalité, c'est lorsqu'on refuse l'autorité de Dieu. C'est lorsqu'on dit, je veux décider par moi-même. C'est ce que le serpent avait dit à Ève. Vous connaîtrez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal. Le péché, c'est lorsque nous voulons décider par nous-mêmes désormais ce qui est bien et ce qui est mal. Je veux un Dieu, peut-être, mais pas un Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui doit décider. J'aime Jésus, j'aime qu'il me console, mais je ne veux pas un Jésus qui me dit ce que je dois faire. Et là, il faut être honnête. Parce que ce psaume-ci ne parle pas seulement des présidents et des dictateurs. Alors oui, dans ce qu'on voit, on parle des rois de la terre et des princes. Mais en réalité, si l'idée de la révolte ici, c'est de dire « je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître », on peut reconnaître que ce n'est pas seulement les présidents qui disent ça. Chacun de nous dit ça chaque jour, à chaque instant, dans sa propre vie, dans son propre cœur. Il y a quelque chose qui résiste au règne de Dieu dans nos cœurs. On peut venir au culte, chanter, écouter une prédication et pourtant dire à Dieu, dans tel domaine de ma vie, je ne veux pas que tu sois le maître. Je veux être libre dans la gestion de mon argent. Je ne veux pas que Dieu ait un regard sur comment je gère mon argent. C'est quand même moi qui l'ai travaillé. Je veux gérer mon temps comme je l'entends. Je ne veux pas que Dieu ait un regard là-dessus. On dit à Jésus, je veux bien que tu sois mon sauveur, mais pas mon maître. Il faut donc remarquer que la rébellion du psaume 2, ce n'est pas une rébellion bruyante forcément. Ce n'est pas une rébellion, une révolte spectaculaire. On voit souvent des révoltes dans différents pays et ça peut être très tendu. Mais dans ce psaume-ci, la révolte dont il est question n'est pas forcément spectaculaire. Souvent, elle ressemble juste à un chrétien qui lit dans la Bible la volonté de Dieu, mais qui en même temps dit dans son cœur, « Je ne veux pas, je ferai ce que je veux. » Vous voyez, c'est ça la révolte aussi. Et donc, on vit dans une société qui fait de l'autonomie, la plus grande vertu. On dit aux enfants, le plus important, c'est d'être toi-même. Vous voyez? On le centre sur lui-même. Il n'y a pas de roi. C'est pas ce que le roi pense qui est important. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu penses. C'est ce que tu ressens. On dit aux jeunes, ton corps t'appartient. Tes désirs te définissent. Ce que tu ressens, c'est ça qui est le plus important. Et tout ça est présenté souvent comme étant quoi? La liberté. Mais la Bible répond qu'une liberté sans Dieu ne produit pas des hommes libres, mais des hommes esclaves. Imaginez un poisson qui dirait, je veux être libre, je ne veux plus être limité dans l'eau. Il saute hors du bocal, il va s'agiter un petit peu, et peut-être qu'en s'agitant, il aura l'impression d'être libre. Mais c'est une liberté qui ne durera pas longtemps. Okay? Elle ne durera pas longtemps. Elle va durer quelques secondes et il va mourir. Pourquoi? Parce que le poisson est fait pour vivre sous l'autorité aquatique de l'eau. Et l'homme est fait pour vivre sous l'autorité de bienfaisante du règne de Dieu. En dehors de ce règne-là, il n'y a que mort, désespoir et désolation. C'est ce que Dieu avait dit au Jardin d'Éden. Et quand Satan a trompé l'homme et que l'homme a succombé au péché, qu'est-ce qui est arrivé? La mort. La première chose que le psaume 2 nous montre, c'est donc que le monde n'est pas neutre. Derrière chaque débat, derrière chaque chose qui se passe dans le monde, il y a la vraie question. Qui doit régner? Mais le texte nous invite maintenant à lever les yeux. Si sur la terre, on voit le tumulte, regardez ce qui se passe dans le ciel. C'est le deuxième point. Les versets 4 à 9. Le trône dans le ciel. Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Vous voyez le contraste saisissant? Sur la terre, les nations s'agitent. Dans le ciel, Dieu est assis. Il n'est pas étonné. Il n'est pas du tout inquiet. Sur la terre, les rois complotent. Dans le ciel, Dieu fait quoi? Il règne. Sur la terre, les hommes transpirent pour renverser Dieu. Et dans le ciel, Dieu rit. Et il faut comprendre ce qu'est ce rire. Ce n'est pas un rire léger, comme si le mal qui se fait sur la terre, Dieu approuve ça et accepte ça. Ce n'est pas non plus un rire cruel en mode « ha 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 ha, je vais vous faire du mal après ». Ce n'est pas du tout cela. C'est quoi? C'est plutôt un rire souverain. Le rire de celui dont le règne n'est absolument pas du tout menacé. C'est le rire du Créateur devant les prétentions ridicules des créatures. Imaginez un peu, frères et sœurs, imaginez une fourmi, qu'on entende une fourmi parler et dire « Demain, j'irai à la tour Eiffel et je vais la renverser. » Merci, Dan-Manuel. Ridicule, hein? Alors, Dan-Manuel rigole parce que ça n'a absolument aucun sens. Je ne pense pas que si une fourmi disait ça, l'armée l'attendrait au pied de la tour Eiffel pour dire « Ah non, tu ne vas pas faire ça. » Je pense que tout le monde rigolerait exactement comme Dan-Manuel est en train de rire en ce moment. Mais pourquoi? Parce que c'est disproportionné, c'est disproportionnel. Vous voyez? Et en fait, la disproportion entre les nations et Dieu, les nations qui veulent renverser Dieu et Dieu qui est assis dans son ciel, la disproportion est infiniment plus grande que la fourmi qui veut renverser la tour Eiffel. Elle ne pourra rien faire.
Elle dit qu'il faut plus costaud.
Oui. C'est ça. Les hommes peuvent se liguer. Les hommes peuvent voter même. Les hommes peuvent crier, menacer. Mais Dieu reste Dieu. Et nous avons besoin d'entendre ça. Parce que quand on regarde le monde aujourd'hui, les guerres, les injustices, les lois qui s'éloignent des vérités bibliques, Arnaud priait ça tout à l'heure. Quand on voit la confusion morale qu'il y a dans le monde aussi, les moqueries qu'il y a contre la foi chrétienne, on peut souvent se demander, est-ce que Dieu voit ça? Et le psaume 2 répond avec une certitude totale. Non seulement Dieu voit tout ce qui se passe, mais plus encore, Dieu règne. Okay. Dieu ne se contente pas de rire. Regardez le verset 5. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Et ensuite, verset 6. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Les hommes disent, nous ne voulons pas de règne. Dieu répond, trop tard. J'ai déjà installé mon roi sur ma montagne sainte. Les hommes disent, nous voulons être les rois par nous-mêmes. C'est l'histoire de la tour de Babel. Genèse 11. L'homme qui veut monter jusqu'aux cieux et peut-être même essayer de renverser Dieu. Dieu, pareil, on dit quoi? Que l'Éternel a juste besoin de pencher la tête. Pendant que l'homme fait des efforts pour essayer de monter, Dieu a juste besoin de pencher la tête pour regarder le ridicule qui se passe. Et il dit ici dans le verset 6, trop tard, l'histoire et son centre est déjà établi. Il y a déjà un roi sur le trône. Il n'y a plus de place sur le trône. Il y a déjà un roi qui est choisi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, dans le contexte de ce psaume-ci, le contexte initial, le psaume parlait des rois d'Israël. C'est-à-dire que lorsqu'un fils de David montait sur le trône, les nations autour pouvaient le contester. Et le psaume-ci était là pour rappeler à toutes les nations que ce roi qui venait sur le trône n'était pas juste un chef politique, mais il était quoi? Loin de Dieu. C'est comme cela. Alors aujourd'hui, on jure sur la Constitution, etc. Mais à cette époque, ce qui faisait le roi, c'est lorsque le prophète le oignait avec de l'huile. Et quand on parle de Jésus qui est le Messie, Messie signifie quoi? Oint de Dieu. Et c'est-à-dire le roi parfait. Regardez un peu le verset 8, frères et sœurs. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ah. Est-ce qu'un roi d'Israël a déjà eu les extrémités de la terre en possession? Est-ce qu'un roi d'Israël a déjà eu toutes les nations pour héritage? Absolument pas. Et donc, en réalité, ce psaume-ci, non seulement il était utile pour l'intronisation des rois d'Israël, mais plus que ça, il annonçait un plus grand roi qui viendrait. Et dans le Nouveau Testament, les premiers chrétiens ont vu exactement en Jésus ce roi-là. Et la première fois que ce psaume-ci est cité presque textuellement, c'est dans Actes chapitre 4, dans les versets 25 à 28. Lorsque les disciples ont été fouettés, ils ont été menacés, à ce moment-là, ils répètent exactement ces paroles. Pourquoi et ils disent que ce qui se passe là, avec les disciples de Jésus, ce qui se passe là, c'est l'accomplissement de ce psaume-ci. Ils disent, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre les princes et se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Loin de l'Éternel, contre qui les rois se sont opposés, c'est qui? Jésus. Jésus. Plus tard, à la résurrection, on parle encore, l'apôtre Paul cite encore ce psaume-ci, dans Actes 13, au verset 33. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux va parler de ce psaume-ci aussi, comme pour parler de la supériorité de Jésus, qui est le roi au-dessus de tout autre roi. Hébreux 1, le verset 5. Le psaume 2 n'est donc pas juste un chant qu'on chante pour introniser un roi humain. C'était la prophétie du vrai roi qui viendrait, qui serait rejeté. Mais ce rejet ne pourrait pas du tout empêcher son intronisation. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Les hommes ont voulu se débarrasser de lui. Ils l'ont arrêté injustement. Ils l'ont jugé, humilié, frappé, couronné d'épines, cloué sur la croix. Ils ont même mis au-dessus de sa tête roi des Juifs, croyant se moquer de lui. Il pensait que la croix prouvait que Jésus n'était pas le roi. Mais en fait, c'est par la croix que Jésus a intronisé son roi. Il l'a mis sur le trône. Les nations se sont liguées contre l'Éternel et contre son nom. Mais en faisant cela, elles ont accompli le plan de Dieu. Leur rébellion n'a pas annulé la souveraineté de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça peut dire? Ça veut dire que quand on voit le monde qui s'éloigne de Dieu, on n'a pas besoin de paniquer. Quand on voit les choses et les lois qui sont votées et qui peuvent nous faire trembler, Tantine Pierrette a prié tout à l'heure pour l'Église persécutée. Quand on voit l'Église qui est de plus en plus persécutée, les gens qui meurent à cause de la foi. Pourquoi ces gens meurent à cause de la foi? Parce qu'ils s'alignent, ils suivent le roi que le monde rejette. Et donc, une façon pour le monde de rejeter ce roi-là, c'est quoi? C'est de brimer et de tuer les disciples de ce roi. Quand on voit cela, évidemment qu'on peut être en peine. Évidemment qu'on doit faire tout ce qui est humainement possible d'être fait. Mais en même temps, on doit être solide et ne pas paniquer. Ne pas paniquer comme si Jésus avait perdu une élection. Quand nous voyons les lois injustes, les idéologies puissantes, ni Dieu ni maître, ou les moqueries contre la foi, on ne peut pas réagir comme si le trône de Christ est fragile. Le Seigneur règne sur son trône et il règnera pour l'éternité, peu importe ce qui se passe. Les empires passent, les idéologies aussi passent. Auguste Blanqui, qui en 1880 a écrit « Ni Dieu ni maître », est passé lui aussi. Les présidents qui se liguent contre le roi de Dieu passent. Les slogans passent. Les puissances économiques passent. Mais le règne de Christ reste et demeure. Et maintenant, pour terminer, il y a un appel à la sagesse dans les derniers versets. Il y a encore une issue. Et cette issue-là, c'est le refuge. Alors, pas notre Église. Même si notre Église pointe vers ce refuge-là. Regardez au verset 10, le ton change. Vous voyez ce qui est écrit? Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. J'aime beaucoup la façon par laquelle ça commence. Vous voyez, il dit, et maintenant, comme pour dire, la porte n'est pas encore fermée. Si vous avez souvent, si vous voyagez souvent à l'aéroport, alors vous voyez, vous savez qu'il y a toujours un dernier appel pour dire l'avion va bientôt fermer, mais ce n'est pas encore fermé. Et c'est exactement ce qui est ce que ce psaume s'y dit à partir du verset 10. Après toute la rébellion, Dieu parle encore, il avertit encore, il invite encore les rebelles à faire quoi? À ne plus rejeter le roi, mais à déposer les armes. Dieu aurait pu écraser immédiatement les nations, mais il est patient. Il envoie sa parole. Le psaume 2 est à la fois un psaume de jugement et un psaume de grâce. Il annonce que le roi va juger les rebelles, mais il appelle aussi les rebelles à trouver refuge dans ce roi avant le jugement, avant qu'il ne soit trop tard. Regardez le verset 11. Le verset 11 m'a beaucoup parlé pendant que je préparais ça parce que ça résonnait dans les discussions que j'ai pu avoir avec des enfants en colo, avec des ados en colo. Au verset 11, il dit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Il y a deux choses qui sont mises en avant, deux choses que nous pouvons opposer souvent très facilement. Il y a premièrement la joie et deuxièmement la crainte. Les non-chrétiens, les gens qui ne sont pas encore chrétiens, pensent souvent que si tu crains Dieu, alors tu ne peux plus être joyeux. Parce que, apparemment, tu seras en prison, tu auras un maître qui va te dire ce que tu dois faire, et donc tu ne peux plus être joyeux, tu ne peux plus t'amuser. Et ils pensent à tort. Mais à côté aussi, certains chrétiens pensent que si tu es joyeux, si tu es trop joyeux, alors tu ne dois plus trembler devant Dieu. Ah, et pourtant la Bible met les deux ensemble. On peut être joyeux et trembler devant Dieu et avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui n'est donc pas une terreur, la terreur d'un esclave devant un maître cruel, mais plutôt le sérieux d'un cœur qui sait devant qui il se tient. Vous voyez, c'est l'adoration humble devant la sainteté de Dieu. La crainte dont il est question ne détruit pas la joie. Elle fait quoi? Elle la bonifie, elle la purifie. Elle enlève tout ce qui est dérisoire. Et puis au verset 12, il dit « Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. » Selon les traductions, l'expression varie, mais l'idée reste claire. Rendez hommage au Fils. Reconnaissez son autorité. À l'époque, quand on voulait se reconnaître l'autorité d'un roi, quand on voulait se mettre sous l'autorité d'un roi, on venait baiser sa main. Vous voyez, on fait encore ça. Le pape, quand il y a des gens qui viennent de voir, il se prosterne et il baise sa main, comme pour se mettre sous son autorité. Dans le monde ancien, c'est exactement ce qui se passait. Embrasser le roi ou son fils, c'était un geste d'allégeance. Cela voulait dire, je reconnais ton règne, je ne suis plus ton ennemi. Et dans le psaume 2, quand le psaume 2 dit aux nations, vous avez crié, brisons leurs chaînes. Maintenant, venez embrasser le Fils. Vous avez voulu vivre sans Dieu et sans maître. Maintenant, venez reconnaître le roi que Dieu a établi. Est-ce que vous avez vu la fin du verset 12? Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Le roi n'est pas seulement celui devant lequel on s'incline. Il est aussi celui en qui on se réfugie. Et ça change tout. Les tyrans exigent la soumission du peuple pour prendre. Jésus, qui est le roi, fait quoi? Il appelle à la soumission pour donner. Le tyran écrase ceux qui viennent à lui. Jésus relève celui qui vient à lui. Le tyran protège son trône en sacrifiant son peuple. Moi, ça me parle. C'est le contexte à plus grande échelle du Cameroun et d'autres pays aussi. Le Christ fait quoi? Il protège son peuple en se sacrifiant lui-même pour lui. Tous les autres maîtres finissent par prendre notre vie. Chaque maître, chaque autre roi en qui vous allez vous soumettre va finir par prendre notre vie. Le travail. Si vous vous soumettez au travail pour adorer le travail, il prendra votre vie. L'argent. Si vous vous soumettez à l'argent pour l'adorer, il prendra votre vie. La sexualité, la reconnaissance sociale peuvent prendre votre vie, peuvent prendre notre vie. Même notre désir d'être libre peut devenir un maître cruel parce qu'il va nous obliger à prouver continuellement qu'on a besoin de personne. Et c'est pour cela que l'appel du psaume 2 est urgent. Il ne dit pas « Arrange un peu ta vie, deviens un peu plus religieux, essaie d'être meilleur. » Il dit plutôt « Réfugie-toi en Christ, dépose les armes, viens au roi. » On a commencé avec cette phrase « Ni Dieu ni maître », cette phrase qui promet une liberté et qui finalement... une liberté qui est illusoire. Quand l'homme refuse Dieu, il ne devient pas libre. Il devient esclave de lui-même. Esclave de ses désirs. Esclave de ses peurs. Esclave de ses propres idoles. Esclave des royaumes qui finissent en poussière. Le monde dit « Brisons les liens ». Dieu dit « J'ai établi mon roi ». Le monde dit « Personne ne règne sur moi ». Dieu dit « Tu peux te réfugier dans mon Fils ». Le monde dit « La liberté, c'est de n'avoir ni Dieu ni maître ». L'Évangile dit que la vraie liberté, c'est d'appartenir au roi qui donne sa vie pour chacun de nous. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Et donc la question ce matin n'est pas « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Beaucoup de gens croient en Dieu, mais d'une manière vague. La question est plutôt, est-ce que tu as embrassé le Fils? Est-ce que tu fais allégeance au Fils? Est-ce que tu as déposé les armes? Est-ce que tu t'es réfugié en Christ? Parce qu'à la fin, il n'y aura que deux façons de rencontrer ce roi-là. Soit comme un rebelle qui refuse sa grâce jusqu'au bout, ou alors comme un pécheur qui vient se cacher en lui. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui.